Eh bien, nous nous trouvons pour l'émission Les mots de la foi et nous poursuivons la lecture de l'exhortation apostolique du pape François, Gaudete et exultate. Et derrière ce latin, il y a une exhortation qui aussi nous met dans la joie quand on la lit, parce que finalement, le pape ne se paye pas de mots théologiques. Dans ce que nous avions abordé la dernière fois, justement, il évoquait cette gnose en rappelant que théologie et sainteté sont un binôme inséparable, mais qu'il ne fallait pas transformer l'expérience chrétienne en un ensemble d'élucubrations mentales. Mais l'autre vieille hérésie dont il parle, c'est le pélagianisme. En quoi ça consiste ?
Alors, le pélagianisme, c'est une idée qui répond un petit peu à la gnose en disant que tout peut venir de la volonté de l'homme. Ce n'est pas l'intelligence qui remplace la grâce ou le mystère, mais la volonté. Et c'est l'idée qu'on peut devenir saint à la force de ses bras, à la force de son poignet.
Et donc on attribue à la grâce un rôle secondaire, alors que le pape nous rappelle que finalement ce qui nous précède, c'est l'amour de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Et que la grâce, c'est ce don de Dieu. Et l'oublier, c'est placer trop de confiance en nous-mêmes, nous dit-il. Derrière l'orthodoxie, nos attitudes pourraient ne pas correspondre à ce que nous affirmons sur la nécessité de la grâce. Et dans les faits, nous finissons par peu compter sur elle.
Oui, alors que la grâce agit en nous, qu'elle nous transforme de manière progressive. Et il faut tenir compte de ce caractère historique, progressif, pour parvenir à la sainteté.
Voilà. Donc, ne pas être justifié par nos œuvres. Vous savez, c'était un débat au moment du protestantisme, du début du protestantisme. Les œuvres ou la grâce. Eh bien, en fait, le pape remet les choses d'aplomb en disant « Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres ni par nos efforts, mais par la grâce du Seigneur qui prend l'initiative. »
Oui, et il rappelle que c'est quelque chose qui est une idée très ancienne dans l'Église. Déjà, saint Augustin, saint Jean Chrysostome disaient que Dieu verse en nous la source de tous les dons avant même que nous n'entrions dans le combat spirituel.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Voilà, et alors lorsque il y a une réalisation qui se fait, même notre volonté de purification est un effet de l'infusion et de l'opération du Saint-Esprit en nous. Là, j'aime bien le Saint-Esprit qui infuse. Eh bien, voilà. Et là aussi, quelque chose d'ancien, du Concile de Trente.
Oui, le Concile de Trente rappelle que nous sommes justifiés gratuitement parce que rien de ce qui précède cette justification ne mérite la grâce.
Voilà, et que ce soit la foi ou les œuvres. Oui. Donc c'est la grâce, donc l'amour, donc le don qui précède. Alors ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique.
Oui, il rappelle que le don de la grâce surpasse les capacités de l'intelligence et les forces de la volonté humaine.
Voilà, ce qui renvoie au commandement suprême de l'amour. Et c'est cela qui devrait, nous dit le pape, marquer notre style de vie, parce que c'est cette vérité qui demande non seulement à être accueillie par notre esprit, mais à être transformée par une joie contagieuse. Vous savez le titre de l'exhortation, réjouissez-vous, la joie contagieuse.
Et le pape ajoute, nous ne pourrons pas célébrer avec gratitude ce don gratuit de l'amitié avec le Seigneur si nous ne savons pas reconnaître que même notre existence et nos capacités naturelles sont un don.
Le pape reconnaît que c'est difficile aujourd'hui dans un monde qui croit avoir quelque chose par lui-même, fruit de sa propre originalité ou de sa liberté. Et il évoque ce qui est dit déjà dans l'Épître aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Alors bien sûr, ça c'est du saint Paul, mais c'est la charité qui rend possible la croissance dans la vie de grâce, dans la vie chrétienne. Et le pape nous dit qu'aujourd'hui, il y a encore donc ces nouveaux pélagiens, ces nouvelles personnes, encore aujourd'hui, qui adorent la volonté humaine et ses propres capacités plutôt que l'amour.
Oui, alors ça se traduit par des attitudes qui peuvent être différentes, mais qui reviennent un petit peu toujours à ça. Par exemple, l'obsession pour la loi, la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales, politiques, l'ostentation. Alors le pape précise, dans le soin de la liturgie, de la doctrine, du prestige de l'Église, la vaine gloire qui peut être liée à la gestion d'affaires pratiques, l'enthousiasme pour des dynamiques d'autonomie et de réalisation auto-référentielle.
Et cela, ça concerne nous tous, parce que souvent on se dit, eh bien, j'ai fait. Et peut-être que le pape nous rappelle que, eh bien, nous avons fait parce que Dieu nous a donné la vie d'abord.
Et puis il dit aussi que quelquefois, contre l'impulsion de l'esprit, la vie de l'Église se transforme en pièce de musée ou devient la propriété d'un petit nombre.
Ça, ça me paraît intéressant quand même, parce que là, cette ostentation dont, qu'il évoquait précédemment, ou bien ce soin extrême de la liturgie, de la doctrine et du prestige de l'Église. Et il rappelle que ne pas se transformer en pièce de musée, ne pas la transformer, l'Église, en pièce de musée, quelque chose qui nous incombe à nous tous.
Oui.
Parce que nous aurions, nous dit-il, l'habitude de réduire et de mettre l'Évangile dans un carcan en lui retirant sa simplicité captivante et sa saveur. La saveur, je crois que c'est oui. intéressant. Parce que finalement, si on se laisse gagner par ce pélagianisme, nous commençons par une vie intense dans l'esprit, mais on finit fossilisé. Ne soyons pas des vieux fossiles dans notre Église. C'est important, ça, en effet. Ni pièces de musée, ni fossiles.
Oui, parce que le pape poursuit en disant que, sans nous en rendre compte, en pensant que tout dépend de l'effort humain canalisé, bien canalisé par des normes, des structures, nous compliquons l'Évangile. Et nous devenons les esclaves d'un schéma bien ordonné qui laisse peu de place pour la grâce.
Donc, un peu de légèreté, ce qui permet d'avoir cette saveur de la grâce, en rappelant qu'il s'agit de rechercher l'essentiel et qu'une seule formule contient toute la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le pape traduit, dans l'épaisse forêt de préceptes et de prescriptions, Jésus ouvre une brèche qui permet de distinguer deux visages, celui du père et celui du frère. Et que c'est cela qu'il importe de reconnaître.
Oui, c'est pas deux formules ou deux préceptes de plus, c'est deux visages en forme un seul. Celui de Dieu qui se reflète dans beaucoup d'autres.
Et il est très clair. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui a de la valeur dans la vie ? Quelles richesses ne s'évanouissent pas ? Deux, le Seigneur et le prochain. Et il termine ce chapitre par la prière que le Seigneur délivre l'Église des nouvelles formes de gnosticisme et de pélagianisme qui l'affublent et l'entravent sur le chemin de la sainteté qui ne sont que des déviations.
Le corps du Christ, vous êtes le... le sang de Christ. Vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui?
Ce qui nous amène au troisième chapitre, la lumière du maître. Il y a des théories sur ce qu'est la sainteté, des explications, des distinctions. Mais Jésus a expliqué avec une grande simplicité ce que veut dire être saint. Et la réponse, c'est dans le sermon des Béatitudes.
Le pape nous dit, les béatitudes, c'est comme la carte d'identité du chrétien. Si quelqu'un se pose cette question, comment fait-on pour devenir un bon chrétien ? Ben, la réponse est toute simple. Il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des Béatitudes.
Le pape insiste en rappelant le mot « heureux », « bienheureux ».
Et il dit « ce mot « heureux » ou « bienheureux » devient synonyme de « saint ». Parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur.
Alors il précise, les béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger ou de superficiel. Bien au contraire, car nous ne pouvons les vivre que si l'Esprit-Saint nous envahit.
Oui, et que ça suppose de nous laisser choquer.
Oui, voilà, choqué par ses paroles.
Nous laisser provoquer. Et c'est vrai que si on prend ça vraiment au sérieux, c'est provoquant et ça nous interpelle en vue d'un changement réel de vie.
Alors il énumère ses béatitudes. La première qu'il aborde, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. »
Et là, il nous invite à reconnaître la vérité de ce que nous sommes pour savoir où nous mettons la sécurité de notre vie.
Et il le rappelle avec la parabole du riche insensé qui ne pensait pas qu'il pourrait mourir le jour même. Parce que, nous rappelle-t-il, les richesses ne garantissent rien.
Et quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait de lui-même qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu, pour aimer les frères ou pour jouir des choses les plus importantes de la vie.
Il lit cela, et rappelons qu'il est jésuite, à la sainte indifférence dont parle Ignace de Loyola,
qui permet la liberté intérieure. Il est nécessaire de nous rendre indifférents, disait saint Ignace, à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre.
Et il insiste, disons, de telle manière que nous ne voulions pas pour notre part davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte. Ça, c'est saint Ignace. Bon, Luc, par contre, ne parle pas d'une pauvreté en esprit, mais d'être pauvre tout court. Donc, et il suggère
une existence austère et dépouillée. Partager la vie des plus pauvres, cette vie que les apôtres ont menée, et nous configurer à Jésus qui, étant riche, s'est fait pauvre, disait saint Paul.
Voilà, et la conclusion de son enseignement sur cette béatitude, c'est être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté. Et bien voilà le message du pape François. Et notre émission s'achève. On vous dit bonne semaine à tous. Au revoir.